So I'm absolutely delighted to be here. Je suis incredible, really. So thank you to Maxime and Maxime, Isabel. Really, really appreciate it.
Merci, j'apprécie. Can we start with the slides? Je vais commencer avec quelque chose.
Can we have the slides?
Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, les slides? Ça, c'est la citation classique de Stuart Hall à propos de l'impact du féminisme sur les cultural studies. Je crois que les féministes continuent à faire du bruit dans les cultural studies. Je pense que c'est l'histoire que je continue à raconter. Donc la représentation, elle est partielle, vindicative. Comme une histoire principalement nationale, il est très difficile de raconter cette histoire de manière différente. Et donc pour expliquer certaines des questions qui étaient à l'œuvre à l'époque, je fais l'histoire d'une histoire de lutte, d'aliénation. Si on commence avec des positions disciplinaires, nous savons que dans les années 80, en Grande-Bretagne, où je commence, il y avait plein d'hommes marxistes qui étaient fermement établis dans la sociologie, les lettres, les humanités. C'était le féminisme qui, à l'époque, qui avait du mal, qui avait du mal à s'imposer conceptuellement. Et donc, en s'emparant de certains concepts, c'était une vraie lutte. C'était difficile, c'était tactique et stratégique. Les questions du harcèlement sexuel, par exemple, à compter des défis, comment comprendre le capitalisme et la patriarchie et le pouvoir des hommes, étaient difficiles. Donc les féministes sont encore engagées dans ces luttes, dans plein d'espaces, et c'est basé sur plein d'énergie des corps pour soutenir des recherches sur ces questions, sur tellement de fonds différents. Donc, les relations entre féminisme, marxisme et cultural studies, ce n'est pas qu'une histoire d'idées. C'est une question de représentation, l'insertion des corps dans des espaces et l'énergie incroyable qui est requise pour engager une lutte constante. Donc, l'espace est une possibilité, surtout pour la démocratisation de l'éducation dès les années 1980, qui rendait possibilité là. Le choix, quelque chose de nécessaire. Et donc la dérégulation néolibérale a ouvert un espace pour les choix des féministes. Et donc le choix d'étudier le féminisme était ouvert par les années 110, les campagnes de libération, plein de campagnes politiques, et puis de nombreuses actions politiques dans lesquelles les femmes avaient été impliquées. Donc je vais juste inclure deux slides, qui vous montrent toutes les différentes choses qui se passaient à l'époque, dont vous savez, dont vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas tout examiner parce que c'est beaucoup de travail, mais au cœur de ce que je vais dire moi, il y a des tentatives par les conservateurs de détruire la classe ouvrière en Grande-Bretagne, ce qu'elle a réussi à faire en détruisant notamment les syndicats des mineurs lors des luttes des mineurs, qui furent vraiment cruciales. Ce qui est aussi vraiment significatif, c'est qu'il y avait une grosse réception. Le Brexit va peut-être nous y ramener, hein, mais nous avions des semaines de 3 jours. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes liés aux luttes sociales qui étaient. Et donc, il y avait vraiment une violence extrême de l'État. Donc, ça, c'est le contexte des temps turbulents dans lesquels moi je suis entré dans l'université à ce moment-là. Je suis allé à une université d'élite, York. Mais cette université avait vraiment un département de women's studies qui était d'avant-garde. Et c'était très très poche, c'était très très snob. Et moi, ça me mettait mal à l'aise, mais j'étais curieuse. Et donc j'ai trouvé une maison dans le marxisme, dans la sociologie. J'adorais le marxisme et je tirais toute la sève possible de ces recherches. Et j'ai trouvé quelque chose qui était significatif pour moi et j'étais inspiré. Et j'ai plein de choses à dire sur ce que j'ai lu. Je connaissais déjà les fondamentaux du marxisme. Le capital ne peut pas exister sans la valeur qui est tirée du travail. Le travail n'est rien à moins d'être vendu. Et l'aliénation est la norme de la plupart des travailleurs. C'est pour moi, ça fait partie du sens commun. Donc, j'ai trouvé ma propre route dans l'université sur la question du travail domestique, qui à l'époque était très très forte dans les années 80, mais aussi sur la question de l'aristocratie avec Perry Anderson, etc., et P. Thompson, qui tous les deux étaient très utiles pour ma recherche future. J'ai aussi trouvé des pamphlets fantastiques de Selma James et Della Costa. C'était un appel aux armes féministes, et pour moi c'était très important. Et puis après, j'ai lu Michel Barrett's L'oppression des femmes de nos jours. La recherche académique n'est pas moins, ne doit pas être séparée de l'action radicale. Je pensais que moi, à travers la pensée, qu'on pouvait transformer le monde. J'ai trouvé. J'ai poursuivi ma recherche en marxisme féministe, notamment par la lecture de nombreuses lectures, et puis toute l'histoire sociale de la manière dont on stigmatise les femmes pour les échecs de la colonisation, pour les problèmes de la guerre, etc. En effet, on accusait les femmes de ne pas avoir offert des bons jeunes garçons puissants pour faire la guerre. Donc j'étais fasciné par ça. Donc ce qu'on voit, c'est que les écoles pour les mères furent établies pour que les femmes des classes ouvrières puissent produire une artillerie efficace, finalement. Et donc moi, je me suis concentré dans ma thèse sur ces questions-là. Moi, je me voulais comme une espèce de Paul Willis féminin. À l'époque, j'étais vraiment très impressionné par le travail féministe dans les usines. En termes d'exposition et d'accès, je ne trouvais pas que les cultural studies féministes le numéro de Women Take Issue publié en 1976, je ne l'avais pas découvert assez tôt, et du coup j'avais déjà découvert des éléments d'Angela McRobbie, etc. Il y avait un ouvrage de Terry Level, Pictures of Reality, qui n'apparaît pas beaucoup dans le panthéon des cultural studies et qui est vraiment crucial à mes yeux. Mais j'avais aussi trouvé une voie via l'anthropologie. Il y a un journal qui s'appelle Critique et Anthropologie qui a des travaux fantastiques et dont nombreux débats sur la propriété qui parlaient de la propriété, la question de la nation et la reproduction sociale. Et ça fabriquait la manière dont je comprenais l'idée de culture, la culture qui devint plus tard les cultural studies pratiquées. La question de la reproduction sociale était pour moi centrale dans ce débat. Et donc les anthropologues féministes ne faisaient pas des usages simplistes du terme de reproduction. On a évidemment aussi Marx et Engels dans la reproduction sociale. Et comme il le note, c'est la première action historique est la reproduction des moyens de reproduire les moyens basiques de la reproduction de la vie matérielle elle-même. Donc moi, j'étais assez intéressé dans la signification des liens entre le travail, comme Marx le réalise. Et donc pour moi, ce qui m'intéressait, c'était comment le travail pouvait ne pas simplement être offert pour exister, mais pouvait être mis, rendu au capitalisme pour pouvoir permettre aussi des formes sexualisées et racialisées de reproduction. Ce ce que la compréhension anthropologique de la culture me permettait, c'était comment l'État, le développement de l'État, avait participé au développement de la vie domestique. On a perdu l'État, de cette manière, dans la recherche. Quoi. L'État a joué un rôle très important dans sa recherche. Le développement du système domestique était très important dans l'analyse féministe parce que c'était la reconnaissance de la non-adaptation de la famille comme moyen de reproduction de la classe ouvrière. Pourtant, le coût de la reproduction sociale pour le travail et du capital sont transférés de l'État vers les familles elles-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a un très fort soutien idéologique pour ces éléments. Et ça, ça veut dire que l'idéologie devenait très très importante, notamment l'idéologie de la famille, notamment, comme le montraient les historiens féministes, offrait plein d'éléments intéressants pour cette histoire. La question du maternalisme, le sacrifice de soi, la protection des enfants, le soutien des familles, tout ça, toutes ces questions furent développées dans l'investissement de lutte au sein des relations de reproduction sociale, qui étaient souvent contradictoires, qui étaient souvent informées par d'autres institutions du pouvoir mâle, les relations de propriété, la religion, des choses comme ça. Et donc des idées d'individualité qui participaient d'éléments de reproduction de la moralité, de la morale dominante. Donc l'idéologie et l'expérience vécue, c'est ainsi que j'approchais le féminisme marxiste ou le marxisme féministe, pour comprendre la question de la morale et de la culture. Donc les cultural studies, avec un grand C, un grand S, pour moi ça c'est ça. D'après Charlotte Brunson, il y a eu de grandes luttes entre le féminisme et le marxisme, notamment dans les cultural studies, en 1973 et 1974. Il y a eu beaucoup de luttes. Et je pense que là, c'est quelque chose d'important avec la citation précédente de Stuart Hall sur les cultural studies. Et les femmes qui ont chié sur la table des cultural studies dit que l'intervention du féminisme fut spécifique et décisive. Elle fut une rupture. Je vous laisse lire ce qui est sur le slide, mais ce qui est crucial dans tout ceci, c'est que c'était peut-être sale, mais il s'agissait bien d'une réorganisation du savoir. En tant que féministes, nous, on a réinscrit l'objet, le sujet de la culture. On a réimaginé le pouvoir et les mécanismes par lesquels le savoir peut être accompli. Donc en mettant de côté la famille, l'État, l'idéologie, j'ai utilisé l'ethnographie pour comprendre la question gramscienne, pourquoi est-ce que les gens s'investissent tant dans les structures idéologiques qui ne sont pas dans leur propre intérêt. Néanmoins, comme on l'a déjà dit, l'état de l'idéologie et de l'analyse de l'idéologie dans les années 80 était dominé par l'analyse althusserienne. Ce qui voulait dire que l'idéologie travaillait à travers un processus d'interrelation. Dans mon ethnographie, je ne pouvais pas faire en sorte que ce travail fonctionne, ce travail althusserien. Pour moi, c'était l'inverse. J'utilisais plutôt ce que Gregor appelle une approche culturelle de l'idéologie. À partir de Marx, les gens font l'histoire, mais pas dans les conditions qu'ils ont choisies eux-mêmes. Donc, une méthode de matérialisme dialectique dans laquelle le rôle de l'expérience est important, mais n'est qu'un seul facteur parmi d'autres facteurs, dans la totalité des autres facteurs et des autres pratiques sociales. Et ça, c'est hérétique. J'ai décidé de prendre des éléments chez Althusser, les appareils idéologiques d'État, et toutes les questions des positions des sujets, mais j'ai aussi bougé vers l'attention que E.P. Thompson apportait à la question des luttes sociales dans l'histoire. on s'attendait à ce que les étudiants à l'époque s'engagent et on leur demandait si vous aimiez E.P. Thompson. On considérait que vous étiez finalement minable si vous aimiez E.P. Thompson. Si on vous disait « Ah, votre travail ressemble à E.P. Thompson !» Bon, moi, ça me faisait plaisir, mais bon, pas tout le monde. Dans l'ethnographie que j'ai faite, la manière dont je l'ai analysé la culture, j'ai préféré, moi, la version de Richard Johnson. Donc j'ai utilisé sa version du marxisme. Ça, c'est un moment lorsque la plupart des manuels en sociologie étaient positivistes. Ils mesuraient les choses avec des chiffres, quoi, grosso modo. Mais moi, j'ai lutté avec les étapes 4 et 5 que vous voyez sur le slide de Johnson, présenter le vrai mouvement réel. Faire de l'ethnographie, c'est problématique lorsque les concepts dont on dispose ne sont pas suffisamment explicatifs pour pouvoir analyser le réel qu'on a sous les yeux. On ne peut pas réduire la réalité à un appareil conceptuel comme ça. Donc, pour moi, c'est la créativité qui fut un élément important. Il fallait modifier les perspectives. Et faire la théorie, c'est impliquer aussi une forme de créativité. Donc, il fallait que je comprenne les questions de classe, de culture populaire et la résistance des femmes à l'oppression qui m'a permis à moi de développer des idées sur la désidentification et la reconnaissance de classe. Mais je reconnais que dès le début, Marx, très tôt, était finalement au centre de toutes les préoccupations et l'objet d'un certain culte, et le fait que moi je m'y attaque un peu finalement m'a rendu assez vulnérable. Je me rappelle qu'on m'a attaqué pour ne pas avoir lu Althusser en français, Marx en allemand, Gramsci en italien, etc. Voilà. Et puis... J'avais aussi le problème avec la manière dont les débats traditionnels marxistes, notamment dans l'arrogance très masculine d'E.P. Thompson, mais ces postulats sont faux, crierait Thompson à certains de ses élèves. Moi, je me rappelle une conférence où tout le monde luttait, se balançait des noms d'oiseaux en disant tu as tort, et Thompson était au cœur de tout ça. Toutes ces formes de communication ferment des espaces pour l'engagement, donc il faut trouver d'autres manières de dire les choses. Donc le féminisme avait besoin de d'autres types d'engagement. Et avec le féminisme, tout un monde interdisciplinaire s'est ouvert à moi qui permettait beaucoup de capital culturel. Les études culturelles impliquaient aussi beaucoup d'investissements. Et il fallait connaître les règles de l'engagement. C'est pas juste trouver des cadres politiquement, mais il fallait aussi, comme le dit Bourdieu de l'épistémé, il fallait savoir ce qu'on cherche, comment le mettre ensemble et comment y donner forme. Ces différentes demandes de ces trois différentes perspectives formaient et déterminaient les formes d'implication et d'engagement épistémologique possibles. Les débats publics autour du socialisme féministe étaient très importants pour moi. Et ça, ça enlevait beaucoup l'attention de plein d'autres éléments des débats spécifiquement marxistes-féministes qui avaient lieu dans les cultural studies et la sociologie. Les interventions bien plus féministes dans les magazines comme New Statesman, Woman's Voice, et notamment dans New Socialist, sur comment améliorer la vie des femmes. Là, il s'agissait de féministes socialistes qui étaient informés par un ouvrage de Lindsay Goldschiller.
Feminist critique. There's these
Donc on proposait du savoir public et on était très attaqués. Et il y avait toute une décomposition de l'idée de classe à travers le marxisme. Donc Marx aujourd'hui, Marx fut très important pour établir le débat public. Il proposait de nouveaux temps, ce qu'on a appelé le nouveau révisionnisme, et notamment la retraite de position socialiste et l'abandon des concepts de classe et de conflit de classe dans la formation de structures politiques. Ça réfléchissait. Enfin, Gordon Brown et Tony Blair ont tous lutté pour l'abandon de formes de marxisme. Stuart Hall, lui, défendit l'idée que la classe était en train d'être recomposée, mais pas de la manière qu'il attendait dans Marxism Today. Et je crois qu'il regrettait beaucoup de ce qu'il a écrit à l'époque. Dans Marxism Today, il dit que la décomposition de la classe sous les gouvernements Thatcher fut poussée plus loin encore par les pensées de Chantal Mouffe, par exemple, qui fut très influente dans les Cultural Studies. Elle rejetait l'opposition entre capital et travail en remplaçant le concept d'exploitation et par celui d'antagonisme et promouvant des mouvements sociaux basés sur les identités. Il maintenait que l'existence d'un discours externe appelé démocratie transformerait les différents sociomouvements dans un bloc social. Ils n'ont jamais spécifié comment ils développaient les changements et les équivalences entre les différences qui étaient impliquées dans ces différentes approches. Donc dans Marxism Today, Chantal Mouffe a développé l'idée de populariser la démocratie libérale. Moi, la question de politique des identités, la consommation était très importante pour moi, et ça, elle n'en parlait pas. Tout ça se développait lorsque... Tout ça se développait. Donc, on promouvait la démocratie libérale contre les syndicats, etc., mais avec une grande résistance à notamment, par exemple, l'incorporation des questions raciales, par exemple, sexuelles. Donc on ne savait pas trop quelle lutte politique allait avoir le plus d'impact dans ce qui se passait. Mais ce qui était vraiment au cœur de ce qui se passait, c'était la manière dont les tensions étaient affectées par... La tension était divergée, était écartée de la question du capitalisme, notamment. Donc, en se mettant ensemble comme des théoriciennes culturelles féministes et non plus simplement marxistes. Moi, je me suis débrouillé pour avoir un boulot permanent dans l'université de Lancaster en tant que chercheuse en Women's Studies. Donc, avec beaucoup de gens qui sont d'ailleurs ici, qui étaient des gens en sociologie. Elles avaient proposé des travaux importants dans les questions de reproduction, de sexualité, critique du thatcherisme. Et donc, pour les cultural studies féministes, dans les années 90, il y avait un moment vraiment fantastique qui permettait de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est dans cet espace que moi, j'ai perdu un peu de mon lien avec Marx, parce que j'étais tellement excité par toutes les choses féministes qui se passaient. Je voulais comprendre tous les débats qui avaient lieu à ce moment-là, quoi. Et lorsque les maisons d'édition n'avaient aucun intérêt pour publier quoi que ce soit qui avait le mot de classe dans le titre, et je me suis dit, d'accord, écoutez, à ce moment-là, je ne vais plus mettre classe dans le titre, je vais mettre féminisme, et puis du coup, on se mettait à publier mes travaux sous prétexte qu'il y avait simplement le mot féminisme. Non. Bon. J'ai commencé à m'intéresser sur les discours, la féminité, la sexualité, et je commençais à débattre avec les théoriciennes féministes. Started to work it through a very different frame. Donc j'adoptais de nouveaux cadres pour pouvoir penser le féminisme. Donc lisant Bourdieu et en publiant Féminisme après Bourdieu, mais ce qu'on voulait appeler en fait Bourdieu après le féminisme, mais on nous a censuré pour ça. Et du coup, je me suis intéressé à des traits, non pas à travers des formes homogènes, mais d'une manière beaucoup plus pragmatique. Je crois qu'il faut avoir une consistance épistémologique et de nombreux concepts ne travaillent pas ensemble, n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en cultural studies féministes et je ne vais pas vraiment m'intéresser à tout ça, mais le féminisme marxiste a disparu. Où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qui s'est passé à la culture de classe? Où sont-ils passés tout ça? Donc derrière, enfin, à côté de cette question de la culture, je veux juste parler de deux éléments rapidement, hein, sur les différents types de cultures qui sont évoquées de nos jours, que moi je trouve très 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 problématiques. D'abord, on a les cultural studies avec un petit C, un petit S, et ce fut promu pendant quelque temps dans le journal Cultural Society par exemple, mais souvent, qui s'intéresse beaucoup à la question de la consommation. Mais ce qui s'est passé, c'est que la concentration sur la consommation des modes de vie s'est imposée contre d'autres conceptions de la culture. Donc, on a la réplication de la distinction de Bourdieu dans plein de cultural studies, partout dans le monde anglophone. Et donc, on a quelque chose qui s'est passé à Manchester. On a des cultural studies sans capitale. On a aussi l'étude de la consommation dans ses différentes formes. Et ça devient... C'est très dépolitisé pour moi. Donc on n'étudie plus la classe, quoi. Et donc la culture a été réduite à quelque chose de dépolitisé. Et la classe a disparu de l'agenda, bien que le mot reste et apparaisse encore dans les écrits. Mais je crois qu'il faut qu'on pense à où est passée la classe. Où est la classe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? La plupart des discours des démocrates, des démocrates libéraux, disons, sont fondés et sont tout à fait cohérents avec le discours du FMI, etc. Donc on a vraiment une formation politique qui s'impose dans le monde académique, des formations politiques qui est inspirée par les institutions capitalistes, quoi. Et du coup, ça se pose un gros problème. Bon, donc pour conclure, il s'agissait pour moi ici un compte-rendu motivé. Je voulais exposer mes propres motivations dans l'histoire de l'épistémologie féministe. Donc c'est l'histoire d'une voie possible à travers le marxisme, le féminisme, la culture et la sociologie dominante. Ça montrait comment des concepts qu'on utilisait sont le produit de ce genre de détermination, toujours coproduites dialectiquement par différentes cultures, différentes institutions. Tout cela fut produit à travers des luttes, l'occupation d'institutions, d'espaces publics où on pouvait vraiment s'exprimer avec de nouveaux paradigmes. J'ai montré comment c'est difficile de rester avec la consistance épistémologique des fondamentaux du marxisme. Il faut bâtardiser, si vous voulez, combiner, modifier et défier les canons pour pouvoir expliquer et se faire son propre chemin. Ça dépend de ce qu'on essaie d'expliquer, plutôt que la pureté théorique, si vous voulez. Donc je veux finir avec un petit document. Je crois que les féministes dans le monde universitaire, c'est comme une hydre avec beaucoup de visages, beaucoup de têtes. Ce que j'ai vu dans la Grande-Bretagne, c'est des recherches massives sur les formes de féminisme marxiste. Ça prend plein de facettes différentes dans la tradition des cultural studies. des visages complètement différents. Mais par exemple, à Londres, là où il y avait donc la conférence sur le matérialisme historique, qui était très très masculine, maintenant présente de plus en plus des visages différents. Et donc il y a une nouvelle génération. Il y a aussi des travaux incroyables qui sont faits par des chercheurs noirs dans les États-Unis. Il y a aussi évidemment tout le monde queer et toutes ces nouvelles directions qui sont proposées par les combinaisons de ces différentes facettes. Donc il y a plein de nouveaux axes du marxisme, du féminisme, de la théorie queer, de l'antiracisme, etc. Donc il y a des traditions différentes des cultural studies qui offrent plein d'espaces institutionnels nouveaux pour des combinaisons entre féminisme et marxisme. Et je crois, aux marges du féminisme marxiste, du marxisme féministe, il y a des choses qui se passent très intéressantes dans le monde juridique, dans la loi, dans l'histoire, dans la sociologie. On essaye de développer un manuel de marxisme dédié aux féministes. Donc, pour conclure, je crois que c'est un moment vraiment excitant. Il y a vraiment des choses qui sont en développement, et c'est toujours le cas finalement, tout est toujours en développement. Donc toujours dans les systèmes de connaissances qui permettent de combiner tous ces éléments, il y a une espèce d'histoire sale de dé- et de reterritorialisation, de recomposition, et donc le marxisme est de retour, le féminisme a une présence qui ne disparaîtra pas, et on continuera où on peut. C'est toujours en train d'accélérer, c'est moins aliénant, et puis il y a toujours ce défi du féminisme dans les recherches qui sont proposées de nos jours. Merci.